Salut tout le monde et bienvenue sur cette interview d'Hémisphère. Initialement, on devait faire une interview pendant le festival Au-delà du Dragon, mais confinement oblige. Eh ben, on l'a fait, mais chacun chez soi. J'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Zencaster qui permet de faire une interview en audio. Donc, je vous préviens, le son n'est pas aussi bon que ce qu'on fait d'habitude. Alors, on parle pas des règles et de l'univers du jeu ou qu'est-ce qu'Hémisphère, puisqu'on a déjà abordé ça deux fois en interview et que la chaîne YouTube d'Olivier te permettra d'avoir vraiment beaucoup d'informations à ce sujet, ainsi que le kit d'introduction qui est disponible en libre téléchargement sur son site. On y parlera surtout du financement participatif, les contreparties, les paliers, les options, que cela soit du côté des particuliers ou des boutiques. Bonne écoute !
Alors aujourd'hui, je suis avec l'auteur d'Hémisphère, Olivier.
Oui, c'est moi.
Ça va bien ?
Ça va, oui. Et toi ?
Bah ouais, ça va très très bien. Malgré le confinement, bah on s'éclate quand même.
Oui, bah écoute, bah tu sais, quand on bosse à la maison, ça change pas énormément de choses.
C'est vrai que ça doit être assez pareil pour toi, quoi. Du coup.
Ouais, enfin, sauf le petit à la maison, ça change un peu des trucs.
Ouais. Bon, du coup, ça fait déjà trois fois qu'on t'interview avec Indécent.
Eh oui, c'est le grand amour. Hein.
Ouais, c'est ça. T'étais déjà passé devant le micro avec JB deux fois ces deux dernières années.
C'est ça, en convention, ouais.
En convention et à la maison, tranquillou.
Ouais, c'est ça.
Quand tu venais d'annoncer que t'avais signé avec Posidonia, si je me souviens bien. Voilà, ça. Donc, on peut dire que t'es un habitué, en fait.
Voilà, c'est ça, ouais.
Alors, du coup, on est là pour parler d'Hémisphère, donc, dans cette interview. Mais comme on avait déjà abordé l'univers deux fois et le processus créatif, en fait, qui était derrière ce massif projet,
oui.
Là, on va parler un peu plus en profondeur du financement à venir.
Oui.
Le financement aura lieu le jeudi 26 à quelle heure ?
À 19h.
À 19h pétante sur la plateforme Game on Tabletop, je suppose.
C'est ça.
Ok, alors, des fois que des gens qui écoutent cette interview ne connaissent pas Hémisphère.
Est-ce bien possible ?
Est-ce bien possible, déjà ?
On va essayer.
Mais quand bien même, mettons que ça soit possible.
Imaginons, ouais.
Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur le web, en plus de sur le financement ?
Alors, j'ai un site, donc www.hémisphère.fr, une page Facebook, un Twitter. Alors, je ne vais peut-être pas donner les adresses en vocal, ce ne sera pas très intéressant.
Je mettrai toutes les adresses dans la description de l'interview.
Voilà. Ouais, voilà. Donc oui, on peut facilement me trouver Facebook, Twitter, blog, site... Et un Discord aussi.
Et il y a un Discord aussi. Il y a aussi des vidéos sur ta chaîne YouTube.
Oui, alors bon, il y a la vidéo de le teaser de la campagne, bien sûr. Et sinon, effectivement, j'ai fait des petites vidéos d'aide de jeu pour, on va dire, débroussailler un petit peu le système de jeu, en fait. Pas qu'il soit très compliqué en soi, mais... comme j'ai pris le parti de bien redéfinir tous les termes, donc du coup, il y a un certain nombre de termes qui peuvent éventuellement faire penser que c'est compliqué, alors que ça l'est pas tellement. Du coup, j'ai pris le parti de faire des vidéos qui débroussaillent un petit peu, voilà, en gros, comment ça fonctionne, quoi, ce qui permet d'éviter de s'effrayer pour rien, on va dire.
Ok, bon, très bien, c'est une sorte de kit d'introduction, mais en vidéo, quoi.
Voilà.
Ok, très, très sympa. Alors, du coup, pour les gens qui maintenant connaissent Hémisphère, puisqu'ils ont vu tes vidéos, ils ont vu ton site, ton blog, etc., quelles sont les sources d'inspiration à disposition que tu pourrais conseiller au groupe de jeu pour mieux appréhender le jeu qu'est Hémisphère ?
Alors, je vais essayer de cibler sur ce qui vraiment peut être utile en termes d'ambiance ou d'inspiration pour ne serait-ce que des bestioles ou ce genre de choses. Donc, il y a l'Enfeuse de Troie. Clairement, c'est assez rare les œuvres où ça se passe sur une planète, enfin surtout sur ce type de technologie, c'est un peu médiéval tout ça, où il n'y a vraiment aucun animal existant, etc. C'est que de l'original. Donc ça a joué. Ça, je pense que ça m'a pas mal inspiré. Et du coup, bah, il y a des bestioles bizarres. Enfin, bon, ça peut être une source assez intéressante d'inspiration. Et comme le niveau technologique est proche, ça peut être pas mal. Il y a Avatar de James Cameron, pareil, en termes d'ambiance de planète. Il y a Pitch Black.
Très sympa, Pitch Black.
Pour les bestioles. Tout ce qui est médiéval fantastique classique, en fait, puisque malgré tout, c'est du médiéval, il y a de la magie, on se bat plutôt avec des épées. Bon. On peut quand même piocher dans du classique en termes d'intrigue, on va dire. Donc ça, voilà. Y compris, parce qu'il y a certaines parties du monde qui sont aussi... il y a des rois, des nobles, des... Enfin, bref, il y a quand même des choses qui...
Ouais, des canons du médiéval fantastique, quoi.
Voilà. Ensuite, très important, comme c'est, alors, je l'explique souvent, c'est une époque charnière, c'est-à-dire que c'est du médiéval, mais il va y avoir des découvertes. Donc, ça peut être machine à vapeur, etc. Donc, du coup, on peut s'inspirer de choses plus modernes, donc plus axées sur la révolution technologique, donc montgolfière, machine à vapeur, poudre noire, etc. Et donc, aller piocher aussi dans des œuvres de piraterie, c'est-à-dire avec des armes à feu, des canons. En admettant que, par exemple, une nation qui ait découvert la poudre et du coup équipe ses bateaux de canons, enfin bon, bref, vous voyez ce genre de choses. Okay. Et même voir du. Donc, sur le type Renaissance aussi, ou voir carrément du steampunk. Bon, avec modération, hein, parce que steampunk, c'est quand même plus.
Ouais, ça reste plus
moderne. Mais voilà, peut-être un terme d'esthétique sur, par exemple, la boue où ils ont découvert une machine à vapeur, ils font des trucs bizarres, bon, bref, voilà, ce genre de trucs, quoi. Sinon, pour terminer sur ça, on m'a souffert, je n'ai pas lu, donc je ne peux pas dire si c'est vrai, mais on m'a dit que ça faisait penser à Soleil Obscur de Philippe José Farmer.
D'accord.
Et au cycle de Chai de Jack Vance.
Jack Vance, ouais.
Après, je ne sais pas ce que vaut l'information, hein, ça on me l'a donné. Donc, voilà.
Alors, du coup, il y avait vite fait avant de passer au vif du sujet qu'est le financement participatif. Il y a aussi un kit d'introduction que tu as laissé à dispo sur ton site en PDF. Tu peux vite fait détailler ce qu'on trouve à l'intérieur ?
Alors, le but, c'est-à-dire que c'est un peu, comme c'est un jeu univers, c'est toujours un petit peu compliqué de donner suffisamment d'infos pour découvrir sans trop en donner. Donc, c'est surtout pour découvrir, alors vite fait l'univers, il y a quand même quelques infos, hein, informations sur les espèces jouables, etc. Et sur le cadre de jeu en général. Et c'est surtout pour se familiariser un petit peu avec le système de jeu, parce que le scénario est assez bateau, hein, soyons honnêtes. Il n'est pas fait pour être très compliqué. Et c'est surtout pour voilà, comment ça fonctionne, les GD, la mémoire, etc. Enfin, bref, c'est surtout dans cette optique-là que je l'avais fait.
Donc le scénario ne va servir qu'à montrer les règles, en fait, et appréhender le jeu basiquement, quoi.
Voilà, c'est surtout pour ça. Après, il est sympa à faire jouer quand même. Hein, oui. Voilà, mais voilà, c'est pas, on va pas découvrir plein de choses. Enfin, c'est pas le, voilà, c'est pas l'objet, quoi.
Alors, on passe au nerf de la guerre, comme dirait l'autre. Le financement participatif. Donc, déjà, tout d'abord, combien de temps va durer le financement ?
Alors, là, en l'état, une soixantaine de jours.
D'accord. Oh, ok. Donc, comme sur Inprisem.
C'est ça.
Je sais pas si je le prononce bien. Ce nom,
ah, je peux pas te dire.
Alors du coup, 60 jours de financement, ce qui fait qu'il terminerait fin mai.
Oui, à peu près, oui.
Alors, est-ce que tu peux détailler les contreparties, les options disponibles du financement ?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a pris de partie, bon, il y a un pack en PDF, où on pourra avoir tout en PDF, tout simplement. Tout ce qui est éventuellement débloqué, bon, évidemment, si on débloque une carte, elle ne va pas être en physique, fatalement, elle va être en PDF, mais,
oui, c'est sûr.
Mais voilà, quoi, c'est tout ce qui est en PDF, et sinon, un seul pack physique.
Ok.
Alors c'est un parti pris, comment dire. L'idée, si tu veux, c'est que on pourrait proposer les livres à part et tout, etc. Mais en termes d'optimisation, on va dire des coûts, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est que comme c'est un jeu qui demande quelques accessoires, pas des tonnes, mais quelques accessoires pour être joué de manière optimale, on a pris le parti de faire un pack qui comprend tout ce qu'il faut, et c'est tout. Donc, alors dedans, il y a deux livres, a priori 200 et 300 pages.
D'accord.
Couverture rigide, couleur, etc. Un recueil de scénarios, donc qui s'étoffera probablement s'il y a des scénarios qui sont débloqués. Il y en a quatre de base, il y en aura peut-être plus.
Ok.
Des jetons, parce que le système de jeu demande des jetons pour la mémoire. Un carnet de fiches format A5, une centaine, donc relié en wire haut. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est en spirale, mais pas en spirale. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir à 360 degrés. C'est l'intérêt, en fait. Et les fiches des pré-tirés qui sont dans les scénarios et le tout dans une boîte. Voilà, boîte cloche, a priori.
D'accord. Donc, les deux livres, le recueil de scénar, les jetons, les fiches et les pré-tirés dans un coffret.
Voilà, enfin, dans une boîte cloche, ouais, a priori.
Ok, car... une boîte en cloche, ok, d'accord.
Voilà, donc tout dans une boîte, et avec des trucs qui se débloquent, qui vont se rajouter, si, avec les paliers, quoi. Voilà. Ben voilà, donc du coup, l'avantage du pack unique, c'est que ça permet de fournir une grande quantité de matériel à un prix très bas, puisqu'on profite des économies d'échelle, en fait. Voilà,
d'accord.
Tout simplement. Sinon, ça serait moins intéressant en termes de coût, puisque voilà, on ne pourrait pas profiter des économies d'échelle. Sinon, en termes d'options, parce que tu m'as aussi posé la question.
Oui.
Alors normalement il y a une piste de dés qui est faite par Steel2Geek pour ceux qui connaissent, qui ont fait
Steel2Geek, ouais.
qui ont fait d'autres choses, notamment du matériel pour Roll and Play, si ouais. je ne m'abuse. Il y a des livrets de personnages. On peut acheter un livre de base en plus, celui pour les joueurs, pour pouvoir que les joueurs en aient un en plus pour eux, quoi. Et des personnalisations de PNJ importants et d'animaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, alors ils sont en nombre assez limité, il y en a un à chaque fois, un pour chaque espèce et un pour chaque type d'animaux. C'est de créer un animal, par exemple, complet.
D'accord.
C'est-à-dire que sa fiche, mémoire, ses caracs, son illustration entière, etc., qui sera du coup dans le carnet de fiches relié en haut héros, quoi. Voilà, et pareil pour un personnage important de chaque espèce. Bon, bref. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais revenir vite fait sur le carnet de oui, fiches, parce que c'est une particularité que je ne crois pas avoir vue ailleurs. Alors, normalement, il comportera donc une centaine de fiches recto-verso, donc environ 200 fiche, puisque une fiche c'est un recto. Hein, donc,
d'accord, ok.
Et donc environ 200 illustrations, du coup, parce que chaque fiche est illustrée. Et donc ça contient des éléments du monde animal, végétal, culture, personnages importants, etc. Ainsi que donc, le coût en jetons de souvenirs pour acquérir l'information qui le concerne. Donc ça permet facilement de montrer aux joueurs, voilà, vous avez ça en face de vous, ça coûte tant pour acheter des infos dessus. Voilà. En termes de fluidification du jeu, c'est assez intéressant. Et puis en plus, c'est visuel, quoi. Donc tout de suite, ça marche pas mal.
Ouais, du coup, ça fait un outil très pratique pour le maître de jeu.
Voilà, et surtout sur des jeux comme ça où il n'y a aucun classique. On ne peut pas dire, bon, vous avez rencontré un dragon, des gobelins, tout ça, il n'y a pas. Donc, ni même des loups, des ours, bon, bref. voilà, donc du coup, forcément, avoir des visuels, c'est quand même important sur ce type de produit, quoi. C'est important de base, mais là, encore plus, quoi.
Ouais. Ouais, ça permet de bien, bien illustrer
voilà, parce que
les particularités du jeu, quoi.
Exactement. Voilà, voilà.
Alors, est-ce que tu peux détailler les paliers prévus durant le financement ?
Alors, je vais peut-être pas détailler tous les paliers parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Alors déjà, le palier de financement, il est à 5000 euros.
D'accord.
Et ensuite, alors comme souvent chez Posidonia, l'écran est de jeu, enfin le paravent, quoi, et la carte du continent qui est décrit dans le livre de base, ils sont en palier.
D'accord.
C'est-à-dire que ça viendra se rajouter au pack tel quel. Il n'y a pas de pack physique avec un écran en plus, si vous voulez. Ça sera tout intégré dedans.
C'est l'écran offert si voilà. Le palier est atteint. Ouais. D'accord.
Voilà. Bon, il n'est pas très haut, donc a priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais voilà, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est à 7000. Je n'ai pas le truc sous les yeux, mais vu le produit, c'est pas difficile à atteindre.
Écran rigide ou souple ?
Oui, alors c'est toujours, comme je suis toujours chez Posidonia d'ailleurs, c'est toujours du rigide portrait, alors A4 ou A5, bon là c'est du A4 parce que ça correspond au format du livre en fait.
Bien sûr.
Donc 4 volets avec double rainurage au milieu, donc c'est du costaud, quoi. Enfin, c'est qui tient bien sur la table et qui s'envole pas, quoi. Ensuite, donc il y a des illustrations supplémentaires par Lunart, pour ceux qui connaissent. Qui a travaillé dans plein de choses, dans plein d'autres jeux de rôle, notamment des récents. De la musique d'ambiance par Michael Gelfi. Alors, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir. Il a une chaîne YouTube, c'est vraiment de très bon travail. C'est des ambiances d'une heure pour du jeu de rôle, principalement, oui. Et qui recouvre, il a des centaines de vidéos. Enfin, bon. Et l'idée, c'est d'en financer des spécifiques à Hémisphère, en fait. Voilà. Et du coup, des scénarios en plus aussi par Michel Poupard, qui n'est pas un inconnu aussi, a priori, qui a fait des centaines, genre 200 scénarios pour Rêve de Dragon dans un fanzine, et qui donc fera des scénarios en plus avec des paliers à débloquer, quoi.
Ok, ça fait une sacrée belle équipe pour
renforcer le jeu, quoi. Avec les renforts, on est quelques-uns, oui.
D'accord, bon, c'est cool. Du côté des boutiques qui voudraient souscrire au financement, est-ce que des paliers sont disponibles ? Des contreparties sont disponibles, pardon.
Ouais, j'avais traduit, mais oui, ok. Oui, il y a des contreparties, x3, x6, en gros, du pack de base, tout simplement, avec des prix tabassés. Comme en général, les prix boutiques, c'est souvent des prix plus avantageux, forcément, puisque vous les vendez après.
Donc oui, si vous voyez un faible prix sur un palier boutique, c'est que c'est uniquement pour les boutiques sur le financement, hein, c'est pas.
Voilà. c'est précisé, mais voilà. Ouais, mais, oui. Voilà, c'est uniquement pour les boutiques. Et tout ce qui est cadeaux et améliorations qui sont obtenus pendant le financement sont intégrés aussi aux contreparties boutiques.
D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un paiement à réception possible ou est-ce que la boutique doit payer avant la souscription? Avant, en payant, en fait.
Pendant la souscription, a priori, c'est pendant la souscription, c'est pas le paiement à réception. Après, j'imagine, enfin, je ne travaille pas en boutique ou chez les distributeurs, mais bon, donc on est distribué chez Novalis.
D'accord.
Donc, a priori, c'est directement avec lui que les boutiques voient, avec Novalis que les boutiques voient, et du coup, là, il y a du paiement à réception, mais c'est quand c'est des commandes normales, on va
Oui,
dire.
quand c'est les commandes normales, ouais, ok,
Voilà.
d'accord.
Mais là, non, il n'y a pas de paiement à réception. Ben, c'est-à-dire que, comment dire, enfin, après, moi, je mets à la place de l'éditeur aussi, que l'intérêt, c'est d'éviter d'avancer un maximum de frais.
Effectivement.
Donc, le paiement à réception, c'est pas très avantageux pour l'éditeur, a priori. Je veux pas parler à sa place, mais. Donc, voilà. Donc, non, ça, non. Voilà. Voilà. Après, comme je ne sais pas si je t'en avais dit, mais le prix est quand même vachement tabassé, quand même. Y a
D'accord,
plus,
ok.
voilà. Donc, du coup, c'est quand même vraiment. En plus, les contreparties, certaines contreparties peut-être sont pas exactement. Le prix boutique sera peut-être pas pareil. Enfin, un pack
Ouais.
boutique, après à l'achat, il y aura peut-être des
Ouais,
différences.
comme
Bon, bref.
souvent, c'est plus cher à la sortie,
Ah, dans tous les cas, ce sera plus
boutique.
cher. Clairement, clairement, oui, le prix est déjà
Ok.
le prix de base est déjà tabassé, si tu veux,
Ok.
pour la
Bon, bah, du
souscription.
coup, voilà.
Voilà.
Donc, a priori, un pack plutôt avantageux pour les boutiques si elles souscrivent.
Ah oui, là
Oui.
franchement, oui. Bah après je vends mon truc.
Ah oui, d'accord.
Mais oui, enfin a priori oui.
Question suivante. Pourquoi est-ce que Posidonia choisit de telles durées de financement et de late pledge aussi? Parce qu'on voit des financements sur 90 jours jusque-là. Enfin,
Alors,
60 jours avec in-prid-day.
ouais, alors, effectivement, avant, ils faisaient du 90 jours. Alors, selon mon éditeur, moi je peux parler à sa place, mais
Bien sûr.
c'était d'une part pour couvrir un maximum de salons, festivals,
Ouais.
conventions, parce qu'il est très très présent sur les salons.
D'accord.
Donc du coup, c'était cette optique-là. Et comme on était, comme il, alors en tant que, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en tant que statut associatif, il peut pas trop non plus être hyper communicant. Il y a des restrictions, je ne rentre pas dans le détail. Bon, ouais, bref. Et donc, du coup, ils comptent plutôt sur le temps pour compenser, on va dire, l'effet inconnu, quoi. Surtout au début, qu'il n'était vraiment pas connu, parce que c'était ses premiers jeux. Bon, là, c'était le truc. Après, ça a marché plus ou moins. Hein, voilà, quoi. Donc, du coup, en rediscutant, il a décidé de diminuer un petit peu, donc passer à 60 jours. Donc, toujours dans l'optique de couvrir un maximum de convention, mais en étant plus raisonnable sur la durée, parce que c'est vrai que 90 jours, c'est quand même
Ouais.
très long. Et même pour les auteurs, c'est usant, quoi, 90 jours.
Et oui, parce que ça te fait 90 jours de veille
Voilà.
sur le
Donc,
financement et
du coup, on a
raisonnable.
ramené à 60 jours, bon, qui est quand même plus long que la moyenne, hein, clairement, mais qui est quand même plus raisonnable, quoi, on va dire, en termes de longueur, et qui permet quand même de couvrir. Bon, là, en cette période, couvrir des salons, ça va être compliqué,
Bah,
mais
il y a
l'idée était là au
une
départ.
convention virtuelle le 3
Voilà,
avril,
mais il y a
non?
la convention virtuelle, effectivement. Et après, voilà, ça reste. Voilà. Ça peut couvrir aussi le fait que les gens, bah, du coup, vont peut-être étaler leurs achats. Enfin, bref. Bon.
Du coup, est-ce qu'il y aura un late pledge? Et pendant combien de temps?
Alors, oui, mais par contre, la durée, je peux pas te
D'accord,
dire.
ok.
Ça va dépendre, en fait, de comment se passe la campagne.
D'accord.
Selon comment se passe la campagne, parce que le truc, c'est qu'en late play, chez Posidonia, alors je sais pas si chez les autres, j'ai pas regardé, mais on peut continuer à débloquer des objectifs. Du coup, selon ce qui a débloqué ou quoi, on peut pas se permettre de débloquer, je dis une bêtise, mais un nouveau scénar à 15 jours de la sortie. C'est pas possible. Parce que, donc du coup, on va adapter en fonction aussi de ce qui est prévu, de ce qui est débloqué déjà ou pas. Enfin bon, bref, voilà.
Quel est le délai de livraison estimé pour Hémisphère?
Alors, on est parti sur mai 2021.
D'accord. Donc à peu près un an après la fin du
Un an après,
financement.
à la fin du financement. Voilà.
Alors, du coup, tu l'as dit plus tôt, le jeu, et donc Posidonia se fait distribuer par Novalis.
Ouais, ça y est, ouais. C'était en cours un peu de tractation sur les premiers, là, mais là, c'est bon, ça y est, c'est signé, c'est bon.
Donc ça va être commandable assez facilement et trouvable assez facilement
Ah oui,
en boutique
effectivement, oui.
spé. Du coup, cela dit. Comme on en parlait plus tôt des délais et des durées des financements et des late pledge, est-ce que tu penses que ça n'a pas provoqué une certaine distance de la part des boutiques spécialisées? Avec de telles durées, tu peux penser assez facilement que toutes les personnes qui veulent le jeu l'ont. En fait, à l'instant T, au moment où tu peux vouloir pledger, en fait. Alors, à contrario, les boutiques participent de plus en plus à des financements. Donc ça c'est un fait. Mais c'est très peu le cas pour ceux de Posidonia, en fait.
Alors, jusque-là, effectivement.
Jusque-là, du moins. Est-ce que il y a des changements prévus sur ce point ? Est-ce que il y a quelque chose à dire aux boutiques pour qu'elles participent un peu plus ? Est-ce qu'il y a de quoi les convaincre ?
Alors, au-delà du fait que, encore une fois, l'offre, pour le coup, alors ça, c'est... à chaque fois, c'est un peu le cash, tous les financements Posidonia, mais il n'a pas forcément beaucoup communiqué dessus, quoi. C'est que pendant le financement, les prix sont vraiment tabassés.
D'accord.
Voilà, ouais. C'est vraiment très... En termes tarifaires, c'est vraiment très intéressant. Sur les potentiels clients, j'aurais tendance à pas être d'accord. Hein. Après, je peux comprendre le sentiment. Hein, mais,
non, bien sûr, bien sûr. Je parlais juste d'un sentiment. Hein.
Ouais, attention, parce pas d'une que, réalité. Ouais, non, mais parce que il y a beaucoup de gens qui ne pledgent pas, même s'ils sont intéressés par le produit, qui préfèrent attendre la sortie boutique. Et qui, du coup, attendent la sortie boutique. Donc, ils n'ont pas acheté pendant le pledge, quoi. Même s'il dure longtemps. Enfin, la durée. Alors, effectivement, potentiellement, tous ceux qui voulaient pledger ont pledgé à la fin du financement. Mais par contre, tous ceux qui pledgent pas en temps normal, ils n'ont pas pledgé plus que les autres fois, quoi. Donc, ça ne change pas tellement en termes de boutique. Alors, après, je crois que les boutiques font aussi des commandes groupées. Enfin, tu me corriges si je ne dis pas de bêtises.
En fait, le client vient et demande si tu as pledgé à tel ou tel financement. Est-ce que c'est possible de le faire ? Parce que lui, il peut payer en avance ou payer à réception, en fait. Là, c'est inhérent à chaque boutique, en fait. Donc, vraiment, soit une boutique prend le pari, elle prend un pack, ou deux ou trois, soit elle le fait en fonction de la demande.
Voilà, ok. Bon, voilà, donc du coup, dans ce cadre-là, du coup, c'est du pledge par boutique, mais indirect, quoi, enfin dire. Bon, voilà. Mais sinon, ils attendent la sortie boutique, et puis ça ne change pas grand-chose. À mon sens, je ne suis pas sûr que ça change vraiment beaucoup de choses, en fait. Sauf à moins que la durée soit vraiment courte, genre les derniers à une semaine, là, on peut le rater, parce que on n'a pas la paye qui tourne à ce moment-là, on n'a pas le... Bon, effectivement, là, il peut y avoir des gens qui auraient pledgé, mais qui ne le font pas. Mais à partir du moment où on est sur du durée classique, même 30 ou 40 jours, a priori, les gens qui voulaient, ils le font. Enfin, ils l'ont fait, quoi. De mon point de vue, après, je n'ai pas fait d'études d'impact. Mais...
Ah, mais je n'ai pas fait d'études non plus, rassure-toi. Donc, du coup, ça permet d'avoir plusieurs avis différents sur ce point-là. Donc, du coup.
La question reste pertinente. Hein, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à penser que c'est qu'un sentiment. Après, voilà.
Ok. Mais il n'y a pas de problème. Alors, du coup, on a un peu fait le tour de la question de que propose le financement d'Hémisphère, quelles sont les contreparties, les options, les paliers, comment trouver des informations sur le jeu. Est-ce que tu as un dernier mot ?
Alors, je vais faire un petit clin d'œil au geek. Mais... Mix PS Sentitum Matus. Bon, ça veut rien dire, mais je trouve que ça conclut bien.
Eh bien, Mix PS Sentitum Matus, ça sera le dernier mot de cette interview avec Olivier, auteur d'Hémisphère. Donc, rappelez-vous, le financement a lieu le jeudi 26 mars à 19h sur Game on Tabletop, sachant que je pense que les informations seront reliées sur les réseaux sociaux.
Oui, ça l'est déjà. Twitter,
etc. Ça l'est déjà de toute façon, mais au fur et à mesure, les paliers débloqués verront un post sur les réseaux. Toutes les informations sont dans le descriptif de l'émission. Et puis, merci Olivier d'avoir répondu à mes questions.
Il n'y a pas de quoi, merci à toi.
Mais de rien. Et puis, bonne chance pour le financement et bonne veille de réseau pendant 60 jours.
Oui, bref, j'ai l'habitude, je fais ça tout le temps.
Bon, écoute, très bien. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres podcasts.
Ça va. À la prochaine. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.